C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mardi 18 janvier, bonne journée, bienvenue au 98,5. Ce matin, beaucoup de choses et je vous dirais des éléments qui peuvent, à première vue, paraître contradictoires. Je me résume, c'est retour en classe, en présentiel, dans les écoles qui ont dû fermer hier en raison de la tempête de neige. Donc, il y a des parents qui sont inquiets, des profs qui sont anxieux. On va gérer avec un nouveau code de procédure la présence en classe, puis il y aura des périodes d'isolement moins longues et on le sait qu'il va y avoir rupture de service, que des classes devront fermer, que des enfants devront être placés en quarantaine. Et autant les directions d'école que le ministère demandent justement aux parents faire preuve d'ouverture. Et Philippe Bonneville va aller faire un tour dans les écoles ce matin, mais c'est donc rentrée officielle, en tout cas pour le Grand Montréal. Premier constat qu'on fait. Deuxième constat, vous avez d'un côté le discours assez optimiste, positif du premier ministre Legault, qui nous dit et qui répète depuis quelques jours qu'on a atteint un certain sommet, certains pics, et que ça laisse entrevoir des jours meilleurs. Radio-Canada nous parle ce matin d'un plan qui est en développement pour les hôpitaux du Québec. Et c'est un guide pour vivre avec le virus. Rappelons-nous les propos du Dr Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes, qui disait en gros, le virus est différent. Il faut permettre à des gens qui sont présentement en isolement et qui n'ont pas de symptômes de revenir et de vivre avec ce risque dans les hôpitaux. Donc, Radio-Canada nous dit ce matin qu'il y a quatre principes. Je vous les résume. Ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital et accepter les risques. Freiner les entrées de patients et accélérer les sorties. Ça veut dire moins de monde à l'hôpital puis faire sortir le plus vite possible ceux et celles qui sont là. Les familles appelées à contribuer aux soins à l'hôpital ou des familles qui pourraient devoir prendre charge d'un proche qui normalement serait peut-être à l'hôpital mais qui serait envoyé donc chez lui. Et finalement, redéfinir la qualité minimale de soins. C'est quoi le minimum que je peux te fournir dans tes traitements? Le Québec du Ouest fait partie des stratégies. Moi, j'ai des échos qui me laissent entendre encore ce matin, des gens qui m'envoient des petites notes, que un, oui, ça se discute actuellement, que deux, c'est comme pour demain, là. On n'est pas dans des plans, disons, pour les prochaines semaines. C'est plutôt du court terme. Et ça veut dire, par exemple, soigner les gens avec peut-être une intensité plus basse. Donc, peut-être voir plus de patients, mais moins intense. Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire ça. Revoir certaines pratiques médicales, la fréquence ou la pertinence de certains tests. Ça veut dire offrir à des gens dont on regarde le profil, on vous envoie en soins palliatifs, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. Bon. Et autre élément qui va évidemment faire jaser, puis ça s'ajoute au délestage, pour ce qui est maintenant des priorités opératoires dans le cadre du délestage, c'est l'idée donc de retarder les chirurgies qui sont non urgentes, puis on sait que c'est une définition très élastique, qu'il y a des gens qui voient leur chirurgie de cancer repoussée, mais donc de traiter les gens qui sont les plus à risque. Et par exemple, ça veut dire qu'on pourrait retarder en priorité les chirurgies de personnes, par exemple, qui n'ont reçu aucune dose de vaccin et des personnes fragiles immunosupprimés. C'est-à-dire donc des gens qui sont vulnérables, qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Puis ça veut dire possiblement des complications. Alors, on pourrait retarder les opérations des non-vaccinés. Ce qui n'était pas sur la table, en tout cas jusqu'à tout récemment. Puis au même moment, vous avez le ministre Duclos qui dit, en présentant le nouveau médicament, le nouveau traitement de Pfizer, la fameuse pilule, bien, ça pourrait être donné en priorité aux gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'eux sont à risque de complications et ils vont engorger le système de santé. Alors, tout ça pour vous dire ce matin qu'on a un discours optimiste en public, mais dans les corridors, c'est pas tout à fait le même scénario. Premier constat qu'on peut faire. Deuxième constat, il y a un débat que je trouve personnellement très lourd et avec un manque d'humanité et d'éthique. On fait des comparaisons sur les mesures. Tu sais, les fameux N95 en Ontario, pourquoi pas au Québec. Puis encore là, ce matin, vous avez des articles qui démontrent que, OK, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais que c'est pas vrai que c'est réservé seulement au système de santé. Puis deux, c'est efficace. Puis d'ailleurs, je vois ce matin, il y a un intervenant dans le réseau de la santé qui veut avoir le N95, mais il veut pas raser sa barbe. Puis t'es obligé de raser ta barbe si tu veux que ça soit efficace, puis lui, il veut pas. Mais là, à un moment donné, ça devient des choix. Ce qui est encore plus fou, on disait hier que les gens qui veulent se payer un masque, par exemple pour enseigner, peuvent pas le porter en classe. T'sais, c'est comme du délire, là. Alors là, tu te dis, mais pourquoi ce débat alimenté par le premier ministre, tu sais, dire on a une meilleure performance sur les décès que l'Ontario? Sérieusement, là? Puis notre comptabilité est différente. Ça manque d'humanisme. J'ai pas besoin de ce genre de comparaison. Je vois passer les morts. Puis là, de dire que nous autres, on compte plus de morts que le reste du Canada, puis qu'on est meilleur, puis que là, ça commence à faire, c'est pratiquement indécent. Puis qui sont les gens qui sont morts? Les médecins à qui on parlait hier l'ont dit, là. Évidemment, des gens qui sont âgés, qui ont des problèmes de santé chroniques, comorbidité, qui sont donc plus vulnérables, puis des gens qui font des complications, puis qui se ramassent aux soins intensifs. On retrouve aussi, chez les gens peut-être plus jeunes, des non-vaccinés. Fait que c'est une combinaison de facteurs. Ce matin, petite pointe vers le Canada anglais, dans le National Post, on compare les investissements, puis même avec les États-Unis, là, pour ce qui est du nombre de lits de personnel dans les unités de soins intensifs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le Canada fait dur, là. Quand vous regardez en termes de lits, même avec l'Ontario, le Québec fait pitié. Et on compare avec des populations comparables au Québec, là, c'est-à-dire l'Alabama. Vous avez 1500 lits de soins intensifs. Vous en avez beaucoup moins au Québec. Alors, c'est même là un questionnement sur le réseau de la santé. Puis quelqu'un m'écrivait un petit mot hier en disant c'est un réseau qui était faible, c'est un réseau qui était vulnérable, qui est vulnérable. Puis on vient d'en faire la démonstration avec cette crise de pandémie et cette COVID. Autre élément intéressant ce matin, concernant toujours COVID, puis je vais essayer de résumer ça avec le type de courriel que je reçois. Vous avez les non-vaccinés, les gens qui ne veulent rien savoir, là, puis encore là, il y a beaucoup de catégories à faire. Il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui sont réticents, il y a des gens qui se posent encore la question, mais pas certain que les mesures comme la passe vaccinale, le passeport, là, qui entre en vigueur à la Société des alcools aujourd'hui, puis Société du cannabis, ça a bien de l'effet pour convaincre des gens. Le ministre Dubé disait, oui, bien, on ajoute quand même des premières doses, sans doute. D'ailleurs, en France, il y a une étude qui sort ce matin. On a voulu mesurer l'efficacité du passeport en France, en Italie, en Allemagne. Ça varie un peu selon les pays, mais en gros, le fait de restreindre l'accès à un certain nombre de commerces d'activités, ben, ça donne des résultats. Ça a poussé les gens à se faire vacciner parce qu'ils voulaient, par exemple, pouvoir aller au restaurant, parce qu'ils voulaient pouvoir aller au gym, puis bon. Mais là, vous avez des gens, là, puis ce que j'entends, je ne sais pas dans votre bout, là, mais qui disent, moi, là, je suis doublement vacciné. Dans certains cas, j'ai la troisième dose. Je respecte scrupuleusement les mesures sanitaires. Je ne fais pas de rassemblement. Et pourtant, la situation ne s'améliore pas, puis je ne retrouve pas ma liberté. Des restaurateurs qui disent, y a-tu moyen qu'on rouvre quelque part, puis rapidement, puis qu'on nous donne un signal, avec peut-être des mesures, là, puis moins de clients. Y a-tu moyen qu'on rouvre les gyms, par exemple? Toujours avec un protocole, un suivi, mais on a suivi ce qu'il fallait faire. On comprend qu'il y a un variant, on comprend qu'il est différent. Mais tout ça devient quand même assez lourd. Puis les données médicales changent régulièrement. Puis j'ai écouté le docteur Fauci aux États-Unis qui prévoit, puis un peu ce que l'émission Découverte mettait en évidence dimanche, qu'on va passer de cette pandémie vers, disons, un stade endémique, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de cas. Le virus va toujours être présent, mais ce sera moins affligeant, moins perturbant pour le réseau de la santé. Et lui, il dit ça va arriver cette année. Mais moi, je sens de l'impatience. Beaucoup de gens qui, jusqu'ici, là, respectent l'ensemble des mesures. Puis je le vois, puis c'est pas des gens là qui sont des anti-vax, bien au contraire, mais qui essaient justement de pouvoir passer à autre chose, puis cette espèce de besoin de retrouver aussi une certaine normalité. Fait que d'un côté, juste pour clore là-dessus, vous avez un réseau de la santé qui a l'air de se préparer au pire, à dire on va faire des choix de patients, des choix de traitement, on va demander finalement à des proches de venir aider, puis scénario catastrophe. Puis de l'autre, vous avez la population, en tout cas un pourcentage important de gens qui disent là, y a-tu moyen qu'on puisse réapprendre à vivre avec ce virus? Puis ça, ça veut dire accepter un certain niveau de risque. Très bien, on va regarder quand même quelques autres nouvelles. Il y aura la publication aujourd'hui d'une espèce d'indice du bien-être de la société québécoise. Au juste, au lieu de mesurer le produit intérieur brut, par exemple, puis le taux de chômage, puis l'inflation, ce sont des indicateurs différents. C'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est l'économiste à l'Université de Sherbrooke, François Delorme, qui sera avec nous ce matin pour l'expliquer. Donc, une espèce de repère pour dire aux décideurs, voici dans les critères que vous devez retenir au moment de la décision, ce que vous devez avoir en tête. Il y a des choses intéressantes qui sont positives. Il n'y a pas que du sombre dans la société, là. Bien au contraire, on se rend compte, par exemple, que les immigrants semblent mieux s'intégrer au marché du travail. Il y a peut-être moins de barrières qu'avant. Première indication intéressante. Il y a des gestes concrets qui sont posés pour la protection de l'environnement, mais il y a quand même le fait aussi que les gaz à effet de serre augmentent, que la consommation de pétrole continue de croître. Par contre, il y aurait moins d'épisodes ou de journées avec ce que j'appelle une mauvaise qualité de l'air. Par contre, on voit le stress, l'anxiété, des problèmes de santé mentale. Bref, il y a un paquet de facteurs, on va pouvoir lui parler tantôt. Mais c'est sans doute une façon intéressante là, de pouvoir tenir compte d'un certain nombre de nouveaux facteurs dans la prise de décision. Je veux vous parler de Sébastien Boulanger d'Orval, monsieur qui a volé les données de Desjardins. Et grâce aux démarches de journalistes de la presse, entre autres, on a pu apprendre finalement que le gars avait essayé de négocier quand il s'est fait pincer par Desjardins. Il a essayé d'avoir de l'argent, il a essayé d'avoir une forme d'immunité. Et qu'il a donc siphonné, mais des quantités records, on le savait, là, mais d'une façon tellement simple que tu te dis, mais c'est trop bête pour que ça soit passé comme ça dans une institution financière comme Desjardins. Donc, il est allé télécharger un paquet d'informations. C'est 7 millions là, de clients de Desjardins, ceux qui sont encore là, puis ceux qui étaient chez Desjardins dans le passé, qui ont vu leur renseignement personnel dérobé. Puis là, ce qu'on voit aussi, ce que je vous répète depuis longtemps, ce sont les obstacles que Desjardins met face aux demandes puis aux requêtes des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Tout ça au nom de la sécurité de l'entreprise puis des secrets de l'entreprise. Il y a quelque chose de carrément fatigant. Puis je vous rappelle qu'il n'a jamais été arrêté, condamné. En fait, il a été rencontré, mais il n'y a pas d'accusations qui ont été déposées contre lui. Et que les suspects sont également identifiés. Mais ça bloque. Et ça fait une éternité que ça dure. C'est donc à la fin mai 2019, on est en 2022, qu'on a fait une perquisition chez Boulanger d'Orval parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait siphonné de l'information. Je sais que depuis hier, la candidature d'Anne Cazabonne fait beaucoup jaser, candidature pour le Parti conservateur du Québec. C'est une élection complémentaire, une élection dans Marie-Victorin. C'est souvent l'occasion pour les électeurs de protester. On a vu des partis au pouvoir recevoir des messages des électeurs, puis toute la participation, la machine. Bref, il y a une série de facteurs. Puis là, je sais, je regarde ça comme vous, puis Anne Cazabonne, c'est une comédienne de grand talent, c'est aussi quelqu'un qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Puis là, ce qu'on comprend dans ses propos, là, puis elle a beau pas vouloir répondre, là, mais est anti-vax. Elle se présente pour faire une opposition aux mesures sanitaires. Puis bon, là, il faut voir également, un, son argumentaire, ce qui est articulé. Elle se présente avec Éric Duhaime. Je sais que c'est une pluie de sarcasme sur les réseaux sociaux, là. Mais est-ce qu'elle pourrait pas devenir, pour le cadre de cette élection, une forme de soupape pour bien des citoyens qui, comme je le disais tantôt, commencent à être beaucoup tannés de la situation actuelle? Je ne le sais pas. On va lui parler un petit peu plus tard ce matin. J'ai plein de témoignages aussi. Puis vous allez me dire, les gens qui voyagent, c'est leur problème, là. Mais ce qui se passe, c'est exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire des délais pour obtenir le résultat du test PCR quand on revient. Et on sait que la firme DynaCare a de la misère à donner les résultats. Il y a des gens qui m'écrivent, là, puis ça prend 7-8 jours. Donc, ça veut dire une quarantaine, puis un isolement. Je le sais, vous n'avez pas de pitié pour le monde qui voyage. Mais quand on dit au ministre, j'ai été testé avant de partir, je me fais retester ici, puis vous n'êtes pas en mesure de me donner le résultat. On me dit qu'avec Biron, là, qui a repris du service, ça serait un peu mieux. Quelqu'un m'a raconté ça hier. Puis également, petit mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Il faut regarder ça de près. On parle du fameux 5G, là, puis on n'est pas dans les vaccins, je vous le dis tout de suite, là. Mais le fameux 5G mobile, la technologie, qui va être implantée par des géants américains comme Verizon et AT&T, puis ils prévoient donc déployer davantage cette puissance mobile Internet. Ce sont des transporteurs aériens qui, hier, ont mis en garde les autorités américaines en disant « Si c'est autorisé, si vous faites ça, ça veut dire qu'il y a des milliers de vols qui pourraient être cloués au sol. Pourquoi? Parce que, pour certains types d'avions, semble-t-il, il pourrait y avoir interférence avec des fréquences utilisées par les avions, notamment pour ce qui est du pilotage automatique. Et ça pourrait vouloir dire, puis là on parle de mesures, je ne suis pas un expert, mais en gros, des appareils comme ça, avec fréquences qui mesurent l'altitude. Et des transporteurs disent, puis on pense à Delta, puis on pense à American Airlines, United et d'autres, là, qui disent qu'on pourrait se retrouver avec l'obligation de clouer au sol des vols, emmerder les passagers, puis également le transport de marchandises qui serait en cause. Donc, c'est d'ici quelques jours, alors ce sera à suivre, évidemment, aux États-Unis.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
L'annonce hier de la candidature d'Anne Cazabonne pour le parti d'Éric Duhaime, parti conservateur à l'Assemblée, en fait, pour l'élection partielle, pardon, dans Marie-Victorin, a fait beaucoup, beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Vous avez eu, je pense, l'ensemble des commentaires. Et depuis quelques semaines, quelques mois, Anne Cazabonne est identifiée par ses prises de position à ce mouvement anti-vax au Québec. Elle est avec nous ce matin. Madame Cazabonne, bonjour.
Bonjour, Paul. Mais j'aime pas ça me faire appeler anti-vax parce que je ne suis pas... Je pense que je suis plus même vacciné que vous dans ma vie.
OK, ben, mais pourquoi on règle pas ça tout de suite? D'abord, êtes-vous vacciné contre la COVID? Tu sais, ça va être, ça a le mérite d'être clair.
Ben, en fait, on a pris la position pendant la campagne... pendant la campagne électorale que je ne mentionnerai pas mon statut vaccinal de façon publique.
Pourquoi?
Justement, parce que on trouve que c'est un secret médical, que là, en ce moment, on utilise cette question-là à des fins politiques, à des fins partisanes. Tu sais, moi, dans ma vie, là, j'ai jamais demandé à personne, es-tu vacciné pour la variole, puis lui refuser de venir chez moi parce qu'il ne l'était pas. Comprends-tu? Alors donc, pour moi, c'est un outil politique, un outil partisan de poser même cette question-là. Et je ne veux pas entrer là-dedans. Je ne veux pas, au Parti conservateur, entrer là-dedans.
Je comprends, mais moi, je ne peux pas faire autrement.
C'est parce que, regarde, oui, là, je sais, mais c'est parce que ça fait partie du secret médical. C'est comme si je vous demandais, êtes-vous circoncis? Si c'est pas, ça n'a pas de bon sens, là.
La vaccination demeure un geste quand même de santé publique, parce que je regarde les propos que vous avez écrits.
Oui.
Que c'est une cochonnerie. Pardon, mais je ne sais pas ce qu'il y a de drôle, mais c'est, moi, je lis ça et je me dis, elle est anti-vax.
Non, c'est-à-dire qu'il faut que je vous remette dans le contexte. Là.
Oui.
Ça, quand j'ai écrit, c'est une satire, premièrement, que j'ai écrit, et je faisais pas du tout de politique à ce moment-là. Hein. Mais c'est-à-dire que quelques jours auparavant, on apprenait de la bouche de M. Dubé, M. Legault, qui voulait se départir des personnels soignants qui n'étaient pas vaccinés. Moi, pour moi, ça m'a fait tomber sur le derrière. Et j'avais écrit à cette époque-là sur mon Facebook, comment peut-on prétendre être en état d'urgence et du même coup se départir du personnel qui sont essentiels au maintien d'un système qu'on prétend vouloir sauver. Et je pensais qu'on allait critiquer ce choix-là de la part du gouvernement énormément dans les médias, mais non, c'était vraiment étrange ce qui se passait. Et quelques jours plus tard, et c'est ça, M. Dubé, M. Legault sont venus nous faire un sketch comme quoi, en tant que personne vaccinée, il fallait avoir peur des non-vaccinés et ne pas vouloir se faire soigner par eux. Alors là, moi, je trouvais que c'était de la manipulation, c'était encore de mettre l'huile sur le feu et de semer des graines de la zizanie entre les vaccinés et les non-vaccinés. Alors donc, j'en ai fait une satire, mais mon but, c'était vraiment de dénoncer le fait qu'on utilisait ça comme d'un outil politique, comme d'un outil partisan, qui n'a absolument pas rapport avec une urgence sanitaire quelconque.
OK, mais juste, puis vous avez trouvé les questions peut-être un peu étranges, mais je les pose parce qu'on voit tellement de trucs sur les réseaux sociaux. D'abord, pour vous, est-ce que la COVID-19, ça existe?
Ben oui, là, vous tombez encore dans le complotisme, là.
Je vous pose des questions, mais je m'excuse, mais c'est parce que vos propos, des fois, laissent beaucoup de place à l'interprétation. Fait que ce matin, comme c'est en direct, ça permet de clarifier.
Mais quel propos qui laissait place au fait que j'invente des histoires puis qu'il y a un gros complot, là, Paul? Non, regarde, tout le monde, de toute façon, aussitôt qu'on se prononce contre le gouvernement, on devient complotiste. Le PLQ s'est fait traiter de complotiste, PQ s'est fait traiter de complotiste, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait traiter de complotiste, GND s'est fait traiter de complotiste. Nous, c'est pour ça qu'au Parti conservateur, on veut remettre le dialogue puis le débat au centre de la politique.
Ben, je me souviens pas que ces gens-là aient été traités de complotistes. Je vous traite pas de complotistes.
Oui, oui.
Ben, en tout cas, on lit pas la même chose, visiblement, mais...
Paul voyons comment il s'appelle. Jolin Barrette a traité de complotiste Paul Saint-Pierre Plamondon pour une question à l'Assemblée nationale. C'était ridicule, là.
OK, mais je repose ma question. Vous dites donc, OK, ça existe. Est-ce que le vaccin contre la COVID, d'après vous, ça marche?
Il y a un consensus, je pense, général sur le fait que ça empêche les formes graves, là. Mais moi, c'est pas là-dessus, c'est pas sur le vaccin que j'en veux, parce que le vaccin en tant que tel, c'est un outil qui a toujours été utile. Pour moi, un vaccin, ça protège les gens, ça améliore des situations, ça nous fait pas tomber dans une hystérie collective à savoir si un ou l'autre on est vacciné ou pas. Je voudrais revenir d'ailleurs partir du vaccin et aller vers le passeport vaccinal, là. Tu sais, faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est une mesure liberticide-là a des évidences scientifiques qui sont substantielles? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que le vaccin protège vraiment et de façon significative contre la transmission d'Omicron? Il y a très, très peu d'évidence là-dessus. Alors donc, si on est prêt à prendre des mesures liberticides dans une supposée démocratie libérale, il faudra tout le moins que l'ensemble de l'Assemblée nationale puisse se prononcer là-dessus. Puis qu'il y ait au moins une majorité de 80% et que ça ne soit pas la décision d'un seul homme.
OK. Là, je ne veux pas être plate encore, mais quand votre chef, en réponse à Danny Turcotte sur les réseaux sociaux, dit que le pire danger, c'est quand un artiste se met à faire de la science. Êtes-vous en train de faire de la science ce matin?
Écoutez, Éric a dit ça dans le contexte qui était un animateur radio, puis le but, c'est d'animer les discussions. Parce que là, on pourrait appliquer cette affaire-là aux politiciens en ce moment qui sont nos deux comptables, qui se prennent pour des médecins.
OK, mais il y a des médecins aussi qui font ces avis-là. Il y a des recommandations.
Oui, je sais bien. Mais Éric serait plus à même de vous répondre à cette question-là, puisqu'il dit son statut vaccinal de façon publique. Et en ce moment, il se pose vraiment des questions. Parce que là, tu as un politicien qui lui dit d'aller se faire vacciner, même malgré le fait qu'il ait eu Omicron. Et tandis que les médecins se prononcent complètement dans le sens contraire des politiciens.
OK. Alors, donc, c'était dans je résume ce matin, vous n'êtes pas contre les vaccins. Vous êtes conscient.
Absolument pas. Paul, j'ai fait mon cours en soins infirmiers. Comprenez-vous que je suis absolument pas contre les vaccins, là.
OK. Vous reconnaissez que la maladie existe. Vous reconnaissez que la vaccination donne quand même de bons résultats.
Ben oui, mais qu'on l'utilise à mauvais escient en ce moment.
OK. Vous, l'enjeu que vous soulevez, ce sont les règles de santé publique, les règles sanitaires, le passeport vaccinal, la fermeture des restos, une forme de confinement, c'est ça?
Absolument. Écoutez, là, la majorité des pays en ce moment a une couverture vaccinale qui est inférieure au Québec, puis pourtant ici, on a les mesures les plus liberticides, les plus sévères. Puis de l'aveu même de François Legault, le problème, c'est le manque de milliers de travailleurs dans le réseau de santé. Fait que c'est clair qu'on veut porter, qu'on veut faire porter le blâme sur un bouc émissaire, puis toutes les ratées du réseau, puis des choix du premier ministre sur une poignée de personnes qui n'est pas vaccinée en ce moment. Parce que là, c'est pas les 10% de la population qui n'est pas vaccinée qui va combler le manque des 1000 soignants qui manquent dans le système. Quand bien même là, que 100% de la population était vaccinée, croyez-vous vraiment que le système fonctionnerait mieux? C'est
mais,
ça qu'il faut se poser fondamentalement comme question.
Êtes-vous d'accord que les gens non vaccinés courent un risque plus élevé d'avoir des complications suite à la COVID?
Ben là, en ce moment, il faudrait regarder le taux d'incidence là qui nous ont enlevé. D'ailleurs, le ministère de la Santé a enlevé ce taux-là qui était très pratique comme indice. Faut se référer à ce taux-là. Je pense que à un moment donné, on a pu dire que oui, ça aidait beaucoup, mais que maintenant, même la Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal disait qu'il y avait un échappé immunitaire. Alors donc, on faut le prendre en considération aussi dans nos données réelles et probantes du moment, là.
OK. Est-ce que c'est votre principale motivation pour aller en politique, tout le dossier là, COVID, gestion de la crise puis les mesures? C'est ça qui vous pousse à y aller?
C'est ce qui m'a poussé vraiment. Ça m'a révélé beaucoup de choses du système qui clochait. Mais tu sais, la politique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans la vie. C'est-à-dire, je faisais des soupers politiques. Donc, c'est pas un intérêt qui m'est arrivé hier soir comme ça par hasard.
Et vous avez donné un peu d'argent à tous les partis politiques. J'ai bien compris dans votre vie. Vous avez un peu d'argent à la CAQ, un peu au PQ. C'est arrivé assez souvent.
En fait, j'en ai donné beaucoup au PQ, oui, parce que je votais toujours PQ.
Même la CAQ, vous avez donné de l'argent, semble-t-il.
Oui, ça, c'était à un moment donné où est-ce que je m'étais prononcée, puis je voulais pas que personne sache pour qui je votais, puis j'avais donné 25 piastres à tout le monde.
OK, vous avez donné de l'argent à la CAQ pour pas qu'on sache pour qui vous votiez.
Non, mais si vous regardez les données à ce moment-là, j'avais donné 25 piastres à tous les partis.
OK.
Parce que j'avais pas le droit à l'époque de me prononcer publiquement à cause d'Accès Pharma et j'avais donné de l'argent à tous les partis.
OK. Votre prise de position sur les réseaux sociaux, là, vous avez perdu un contrat de commandite, exact?
Non, j'ai pas perdu un contrat de commandite. Non, ça, c'est complètement faux. Mon contrat avec Accès Pharma était terminé depuis au moins presque un an, là. Ça a été faux ce qui a été rapporté.
Avez-vous perdu de l'argent après vos prises de position publique?
Absolument pas. J'ai même pas perdu un seul contrat, Paul.
OK. Avez-vous l'impression qu'en allant faire de la politique, votre carrière est finie d'actrice?
Paul, j'arrête ma carrière expressément pour faire de la politique, là. Fait que donc, si on veut pas m'engager, tant mieux, parce que je vais leur refuser le contrat. Comprends-tu?
OK, mais ça veut dire que vous renoncez, là.
Tu vas t'ennuyer de moi, c'est ça que tu essaies de me dire, dans le fond?
Ben, comme actrice, ça, c'est sûr. Mais avez-vous l'impression que, pas l'impression, mais est-ce que votre décision est prise, là? Dis-moi, c'est terminé. Fini les séries, fini les films, fini les pièces de théâtre.
Écoute,
terminus.
Je vais reprendre ça quand je vais être vieille. Mon but en ce moment, c'est vraiment de porter une voix, mais c'est surtout la voix de Marie-Victorin, là, à l'Assemblée nationale. Il faut avoir un autre discours que le discours ambiant. Il faut vraiment avoir une réelle opposition, et c'est ça que le Parti conservateur représente, et c'est ce qu'Éric fait depuis le début. C'est le seul qui, contre vents et marées, fait un office de réelle opposition.
OK. Quand vous regardez les réactions de plein de gens sur les réseaux sociaux, là, vous les avez vus comme moi, là. Vous résumez ça bien simplement.
Ouais, vas-y donc.
Ils vous prennent pas ben au sérieux. Ils trouvent que vous avez l'air un peu weird.
Ben non, mais ça, c'est qui dit ça, là?
Bon, vous envoyez la liste au complet. J'en ai vu un paquet passé.
Mais toi, tu me trouves-tu pas si pire?
Moi, je porte pas de jugement. Je vais vous entendre là-dessus.
Non. Ah ben non, mais garde, écoute bien, là, ils ont le droit d'avoir leurs opinions, hein.
Ça vous dérange pas, ça vous affecte pas.
Ben écoute, moi je pense que je suis une citoyenne engagée. Je pense que c'est le principal. Je pense que je défends une voix qu'on entend peu en ce moment. Donc c'est le principal pour moi. Puis le fait d'être convaincu soi-même, je pense que ça peut me pousser puis me propulser.
Est-ce que vous avez offert votre candidature ou c'est Éric Duhaime qui est venu vous chercher?
Ben en fait, quand Eric a pris la peine de me téléphoner en voyant mon nom dans la liste des nouveaux membres, c'est moi qui lui ai offert ma candidature. Puis, mais je voulais aux élections générales. Et comme là, il y a une porte qui s'est ouverte dans Marie-Victorin, c'est lui qui est venu me chercher pour Marie-Victorin. Fait que donc, c'est de part et d'autre.
OK. Dernière question. Est-ce que je comprends qu'on a fait disparaître tout ce que vous avez écrit sur Twitter et Facebook?
En fait, on a fait exprès pour rediriger les gens, pour l'instant, vers ma page Anne Casabonne du Parti conservateur du Québec. Et puis, on va revenir éventuellement, on va les remettre en place après.
C'est pas parce que vous avez quelque chose à cacher, là. Tu sais, des fois, on écrit, puis on regrette, puis on veut pas qu'un vieux tweet vienne nous hanter.
Ben, vous viendrez rechercher quand on les remettra, là. Si ça vous fait plaisir de faire du cherry picking, là, vous en ferez. Okay. Mais je pense pas que j'ai rien à cacher, puis que j'ai rien à... Non, je garde. Je suis une fille honnête, je suis une fille pleine de bonne volonté, et puis bon, voilà.
Je sais pas si vous avez su, mais il y a quelqu'un qui a créé un lien annecasabonne.com.
Ben oui, ça
s'en va vers Clic Santé.
Ben oui, absolument. Moi, on est pour le libre choix, hein. Fait que donc, puis moi, je suis pas médecin, alors donc, je veux pas publiquement influencer personne. Alors donc, c'est pas nous qui avons fait ça.
OK, en terminant, comme ça, le vaccin, oui, c'est pas de la marde, comme vous l'avez écrit à plusieurs reprises, qui était une figure de style dans un contexte.
Ben, exactement, puis c'était très, très... je me suis inspirée d'un monologue que j'avais fait dans un film de Pierre Falardeau, où est-ce qu'on utilisait le mot marde à tout bout de champ, là. Alors donc, ça vient de là, cette inspiration-là, mais c'était vraiment une satire, une critique cynique de la situation que je trouvais clownesque à ce moment-là.
Madame Casabonne, merci, bonne journée.
Mais merci, au revoir.
Anne Casabonne, ancienne comédienne, de toute évidence, et candidate du Parti conservateur dans Marie-Victorin.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors que d'un côté, le premier ministre du Québec semble assez optimiste, M. Legault répète depuis quelques jours qu'on a probablement atteint une espèce de sommet, un pic qui reste à définir. Entre-temps, donc, on est en train de préparer une espèce de plan, je dirais, catastrophe pour ce qui est des hôpitaux. On le sait, là, il y a du délestage, il y a des gens qui sont repoussés sur des listes d'attente, mais Radio-Canada a mis la main sur ce plan de discussion au ministère de la Santé avec quatre principes que je vous énonce, là. Premier, ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital et accepter les risques qui vont avec. Freiner les entrées de patients, accélérer les sorties. Les familles qui seraient appelées à contribuer aux soins à l'hôpital. Et le quatrième point qui demeure à définir, c'est revoir la qualité minimale des soins. Et il y a d'autres éléments, bien sûr, qui viennent se greffer à ces quatre principes. Je vais en parler ce matin avec Dr Mathieu Simon, qui est le chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Dr Simon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je vais pas vous demander de commenter le plan comme tel, mais je veux essayer de comprendre avec vous, un, la réalité, puis deux, de ce que ça peut vouloir dire. Quand vous regardez la situation chez vous, est-ce qu'on est vraiment à l'étape d'arriver avec des gestes quand même plus que significatifs, des décisions importantes là, qui vont affecter directement les patients?
Je pense que c'est responsable de questionner ces choses. Monsieur Arcand, on n'est pas rendu là, et je vous fais le parallèle avec le protocole de triage à l'accès aux lits de soins intensifs qui avait fait surface dans la première vague, où on se disait qu'on pourrait avoir à choisir entre deux patients. Ça a donné un électrochoc au système, cette affaire-là, puis on s'est évertué à développer des ressources pour éviter que ça se produise à tout prix. Je n'ai pas vu le document là, auquel les journalistes de Radio-Canada font référence. J'y ai pas contribué. Mais en même temps, j'y vois un certain espoir, M. Arcand. Je vais vous expliquer pourquoi.
Okay.
Là, on est dans une crise. Puis cette crise-là, la COVID, a mis en évidence toutes les faiblesses qui étaient déjà relativement connues ou suspectées du réseau. L'incapacité des CHSLD de donner d'autres choses qu'un milieu de vie sans donner des soins. Et la lourdeur actuelle en termes de paperasserie administrative, en termes de consignation dans les dossiers par les professionnels, en termes d'examens inutiles ou du moins surfaits qui sont demandés aux patients, qui consomment des ressources dans un réseau qui était déjà avant la pandémie à bout. Et moi, ce que je vois dans ce document-là, c'est un document de crise, mais c'est également l'aboutissement d'une réflexion qui va mener à la refonte du système de santé pour un réseau qui apporte les bons soins aux bonnes personnes au bon moment et non pas qu'ils traitent tout le monde de la même façon. Parce que, écoutez, présentement, là, vous avez des patients dans notre hôpital, puis partout ailleurs au Québec, c'est pareil, qui ont été fragilisés par le COVID, qui ont été sortis de leur milieu de vie, qui sont souvent des RPA ou du CHSLD, et qui sont à l'hôpital uniquement parce qu'ils ont besoin d'un litre ou deux d'oxygène, ce qui ne peut pas être donné dans leur milieu de vie. Ces gens-là occupent des lits qui sont donc pas dédiés à d'autres patients qui n'ont pas COVID et qui sont en attente de chirurgie pour des cancers, pour des chirurgies cardiaques et autres choses qui sont aussi importantes que la COVID. Et ces gens-là n'ont pas besoin de soins hospitaliers. Ils ont juste besoin d'un milieu de vie où on peut, par exemple, leur donner un peu d'oxygène. Alors, je pense que en réfléchissant correctement à valoriser la ressource humaine, c'est-à-dire qu'une infirmière ne devrait pas passer plus de temps dans ses dossiers qu'avec ses patients parce que l'ordre lui demande de documenter de façon ultra précise ses soins. Elle ne devrait pas non plus rentrer dans les chambres de patients 7 à 8 fois par jour simplement pour ajuster une pompe ou un débitmètre d'oxygène parce qu'on a maintenant des technologies qui nous permettent de le faire à distance et de documenter ce qui se fait de meilleure façon. C'est toutes des choses qu'il faut organiser. Il faut, vous savez, on...
Mais je vous écoute, docteur Simon, là, je vois la liste, là. Allez-y. Dites-moi, est-ce que c'est faisable de faire ça, c'est-à-dire de déprogrammer un système qui fonctionne comme ça depuis si longtemps?
Il le faut. Il le faut absolument. Puis, écoutez, quant à moi, c'est le plus important chantier de notre société pour les dernières et prochaines années parce qu'on ne peut pas continuer à verser des ressources dans un réservoir qui a des trous. Hein, le système de santé a toujours fonctionné en injectant des ressources monétaires supplémentaires, mais on ne s'est jamais questionné, ou du moins pas de façon globale. Hein, on a fait des petits chantiers, mais globalement, il faut réfléchir avec les ordres professionnels, avec la population, avec tout le monde, à savoir comment est-ce qu'on s'assure que les patients reçoivent les bons soins au bon moment, sans attente inutile, et que les professionnels sont valorisés en faisant des actes à valeur ajoutée et non pas en faisant ce que des machines ou des ordinateurs peuvent faire à leur place.
OK. Je vous donne un exemple qui est cité là dans ce guide pour prioriser. On dit qu'il apparaît éthiquement justifiable de soigner le plus de personnes à intensité basse, plus basse, plutôt que de soigner moins de personnes avec une intensité optimale. Il y a des gens qui vont lire ça en disant, est-ce que ça veut dire qu'on va baisser la qualité des soins?
Par exemple, une personne qui est transférée d'un CHSLD ou d'un RPA ou même d'un milieu de vie autonome et qui rentre à l'hôpital, il va se heurter à toute une routine de prise de sang, de radiographie et autre chose, alors qu'il n'est à l'hôpital que parce qu'il est un peu déshydraté, pas capable de manger sur lui-même pendant quelques jours. Et si ça avait été, s'il y avait eu un support familial ou professionnel à la maison, il serait resté à la maison. Si la résidence où il vit avait pu lui déployer un peu d'oxygène, ça aurait pu se faire. Mais non, au contraire, on l'amène à l'hôpital parce que c'est la dernière ressource. Et c'est dans cet hôpital-là, il rentre dans une espèce de routine très, très lourde qui consomme énormément de temps et qui empêche de mieux soigner d'autres personnes qui attendent parce qu'ils ont eu le malheur d'arriver après ou avec une affection qu'on pense pouvoir retarder dans son traitement. Écoutez, M. Arcand, l'hôpital, là, c'est comme recourir à l'hôpital pour la majorité de ces situations-là, c'est un peu comme accrocher votre harnais de ski nautique après un porte-avions. Vous n'avez pas besoin d'un porte-avions pour faire du ski nautique, vous avez juste besoin d'un canot moteur quelconque. Ben, c'est ce qu'il faut voir. Il faut ajuster l'intensité des soins sans perdre la qualité, là, parce que ça, ce que j'aime pas dans l'article, c'est que on laisse sous-entendre que le niveau de soins moins intense est un niveau de soins de moins bonne qualité. Non, pas du tout. C'est un niveau de soins qui est approprié. Puis je vous dirais même que, reprenons encore les personnes de CHSLD et de RPA qui représentent beaucoup de l'utilisation des lits ces temps-ci en COVID, puis qui, chaque année, avec l'influenza dans le passé, le faisaient également. Ces gens-là, vous les prenez dans un milieu où ils sont confortables, ils sont bien soignés, et vous les amenez dans une unité où il y a du bruit, de la lumière, de l'action. Ils sont complètement déconnectés avec leur routine habituelle. Ça induit de la confusion et souvent de la mortalité. Alors que si on avait pu leur apporter dans leur milieu de vie des soins appropriés et proportionnés à leurs conditions, puis on ne parle pas de soins palliatifs, on parle de soins actifs, mais proportionnés, Ben, il n'y aurait pas eu ce délirium, il n'y aurait pas utilisé une ambulance, il ne serait pas passé pendant 24 heures dans une civière à l'urgence où ils ont fini de se confondre dans le temps et dans l'espace. C'est des meilleurs soins, en fin de compte. C'est juste des soins plus proportionnés. C'est juste que là, le système s'est jamais interrogé sur son modèle et on a le modèle le plus lourd possible pour répondre à toutes les demandes, alors que c'est pas toujours approprié.
Je comprends parfaitement ce que vous dites, puis le diagnostic que vous posez. Mais comme auditeur, comme citoyen, là, je me dis, OK, on a un système qui avait beaucoup de carences. Ces carences-là ont explosé avec la COVID, la pandémie. Ça a augmenté la pression sur un système qui n'était pas hyper fiable, tout à fait solide. Et là, c'est de se dire, on voudrait le réformer en pleine crise alors que les hôpitaux débordent puis qu'on manque de personnel. On se demande si c'est faisable.
En même temps, c'est exactement ce qu'il faut, une crise.
On n'a pas le choix, c'est ce que vous me dites. Là.
Tant qu'on n'a pas de crise, on part un chantier, on retrouve de l'opposition parce que les gens sont très... Certaines personnes sont très ancrées dans leurs vieilles habitudes. Puis, bon, on peut les comprendre, il y a de la sécurité là-dedans. Mais c'est pas une sécurité dont le système de santé peut se permettre le maintien encore bien longtemps parce qu'on craque de partout. Et la crise de la COVID n'a fait qu'accélérer l'évolution de la pensée vers un document qui est peut-être un peu extrême sur celui qui est cité aujourd'hui, mais qui représente, quant à moi, la bonne direction à donner à la réflexion sur la refonte du système de santé, comment donner la bonne ressource au plus de gens possible de façon appropriée, sans pousser inutilement des ressources dans un système qui a prouvé qu'il n'était pas capable d'en tirer le meilleur profit.
Docteur Simon, merci beaucoup d'avoir pris votre temps ce matin. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Docteur Mathieu Simon est le chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Toujours concernant COVID, traitement, hôpitaux, on sait que le médicament de Pfizer a été approuvé. Et le ministre Jean-Yves Duclos a dit deux, trois choses hier. Puis je me permets de mettre ça en évidence ce matin. D'abord, le nombre de traitements, de doses disponibles est assez limité. Là, on parle de quelques milliers dans un premier temps pour le Québec. Deuxièmement, il dit qu'il faut donner ce médicament, puis là, il y aura des protocoles, mais aux gens qui sont les plus vulnérables, ceux qui risquent d'être les plus malades si on ne les soigne pas avec ce médicament-là, ce qui inclut les non-vaccinés. Et là, je vois vos commentaires ce matin, des gens qui disent quoi? Moi, je suis vacciné, on ne va pas me donner le médicament parce qu'un non-vacciné qui ne veut pas... Bon, je vous dis juste ce que le ministre a dit. Est-ce que ce sera le protocole à la fin? Point d'interrogation. Il dit qu'il va laisser le soin aux experts de le déterminer.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, je lisais dans la presse des données là, qui ont été colligées, qui démontrent, semble-t-il, que la ville de Montréal aurait envoyé 5 000 tonnes de matière recyclable. Ça se passe du mois d'août 2020 au mois de mai 2021, directement au dépotoir. Pas la première fois qu'on s'interroge sur les centres de tri. Est-ce que ce qu'on recycle est vraiment recyclé ou si ça se mêle avec les autres ordures? Il semble que c'est un problème technique là, au nouveau centre de tri de Lachine qui explique ce qui s'est passé. Marie-Andrée Maugé est avec nous. Elle est la responsable de la transition écologique de l'environnement puis aussi mairesse de l'arrondissement Verdun. Madame Maugé, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est vrai d'abord qu'on a envoyé directement au dépotoir 5 000 tonnes de matière recyclable?
C'est vrai, il y a eu 5 000 tonnes d'envoyées, mais ce qui est important, c'est de toute proportion gardée, ça représente à peu près 8 % des matières traitées au centre de tri de la Chine. Le centre de tri traite près de 100 000 matières chaque année. Bon, ça fait maintenant 2 ans. Donc, c'est une moyenne qui est très, très bonne, je vous dirais, si on regarde par rapport à l'ensemble des centres de tri du Québec et même par rapport à l'ouverture du centre de tri de la Chine qui était avant plus près de 10 % de taux de rejet. On est maintenant autour de 8 % et la ville vise à ce que ce taux-là diminue encore et encore.
OK, mais là, je veux pas vous prêter des intentions, mais essayez-vous de m'embellir la réalité. C'est parce que là, on nous parle d'un nouveau centre. On me dit qu'il y a des problèmes techniques, qu'il y a même que ça va se ramasser devant les tribunaux. Il n'y a pas l'air si parfait que ça, votre centre de tri de la Chine.
Non, il n'est pas parfait. C'est quand même c'est des technologies qui demandent un certain rodage. Puis entre la conception-construction puis l'exploitation, il y a eu une entreprise qui a fait faillite. Donc, c'est une autre entreprise qui a pris la relève. Donc, il a mis un certain temps donc à prendre possession du centre de tri, à se l'approprier. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, pour certaines matières recyclables, pas pour toutes les matières, il y a un niveau d'exigence qui n'est pas atteint. Mais ça ne veut pas dire que ce taux-là est scandaleux, en fait.
C'est OK, mais attendez. Je veux juste, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Là. On me dit que la norme nord-américaine, c'est 3%, puis que dans nos centres, ici, c'est du 10 puis du 12.
Ben,
c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Première question.
Ben, ici, bon, à la Chine, le centre de tri de la Chine est maintenant autour de 8%. On me dit qu'à l'échelle du Québec, les centres de tri sont plus près de 15%. Mais on me dit aussi que le taux de rejet, c'est pas le seul critère qu'on doit
regarder. Mais attendez, je comprends. Mais ça veut dire que si la norme nord-américaine est 3% puis que vous êtes peut-être à 8, mais 10, puis qu'ailleurs, on est à 10, 15, on est loin, loin, loin des normes, là.
Ben, il faut regarder la qualité des ballots à la fin. Quel prix on va chercher pour les matières recyclables, puis la traçabilité des matières recyclables. Est-ce qu'on les recycle vraiment? Par le passé, ces matières-là étaient envoyées outre-mer, servaient de combustible, ce n'est plus le cas. Donc, le taux de rejet, c'est un élément qu'on regarde pour voir le rendement d'un centre de tri.
Je comprends, mais ça veut dire que nos centres de tri font une moins bonne job dans ce sens-là que la norme nord-américaine.
Ben, la norme nord-américaine, moi, là, j'ai vu dans l'article, c'est la première fois que je lisais ce chiffre-là. Je ne l'ai pas contre-vérifié. Ça m'apparaît très, 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 très bas. C'est sûr qu'à la ville, notre nouveau centre de tri de la Chine, on veut vraiment aller chercher le taux de rejet le plus faible, mais surtout la meilleure qualité des ballots pour la revente. Est-ce qu'on pourra atteindre 3% avec les améliorations attendues? C'est ce qu'on souhaite.
Mais en fait, la question que je vais vous poser simplement, là, je comprends exactement ce que vous me dites, mais en même temps, là, j'entends les auditeurs dire, puis on a eu beaucoup de discussions avant, parce que pas la première fois là, qu'on parle de la performance des centres de tri. Comment vous allez convaincre les gens de continuer à recycler quand on mélange dans le même bac bleu un paquet d'items, puis quand on se fait dire qu'on performe moins bien que les autres en termes de matière, puis qu'il y a une bonne quantité de tonnes qui se retrouvent au dépotoir, comment vous allez convaincre les gens de continuer à recycler?
Bien, c'est important de recycler, puis ça, ça vaut la peine parce que quand on ne trie pas, puis qu'on met ces matières recyclables directement aux poubelles, ben c'est 100% des matières recyclables qui s'en vont au dépotoir. Alors que là, on parle d'à peu près 8% après le tri. C'est sûr qu'il y a des petites matières recyclables théoriquement, mais comme les bouchons, ils échappent au tri optique. Il y a des livres qui ont été mis au recyclage. C'est pas nécessairement recyclable dans le papier. Il y a des éléments, le taux 100% est comme inatteignable. Le papier déchiqueté, les très petits objets. Il y a des plastiques qui sont très difficiles. C'est pour ça qu'à la Ville, on a adopté un règlement pour éliminer certains contenants de plastique pour favoriser le tri au centre de recyclage.
Merci, Mme Mauger. Bonne journée.
Merci.
Marie-Andrée Mauger est la responsable de la transition écologique et de l'environnement et aussi mairesse de l'arrondissement Verdun.
L'essentiel de Paul Arcand.